Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, c'est Fabrice Carreau, alias Fab Carreau, qui nous accompagne pendant toute l'émission. Il publie son nouveau roman, Broadway, chez Gallimard. On y revient tout de suite, mais je vous annonce la suite quand même. Le roman culte, bien sûr. Nous lirons la première page de Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Aujourd'hui, nous visiterons la bibliothèque du chef Yves Candebord. Et oui, il y a des livres de cuisine. Nous partirons fouiner dans les rayons d'une librairie et ce grand enfant de Victor Dolan fermera la boutique, comme toujours, avec son roman jeunesse. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. C'était il y a 2 ans, je reçois parmi les 500 livres de la rentrée littéraire un petit roman intitulé « Le discours » de Fabrice Carreau. Bon, connais pas, ça m'intrigue. Je regarde, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Je prépare une chronique dessus, j'en parle à droite à gauche et on me répond à chaque fois « Ben oui, tu connais pas Fab Carreau, zaï 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 ?» Je me dis quoi, zaï 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 zaï? Et puis je finis par comprendre, j'ai pas du tout découvert un jeune auteur prometteur, je viens juste d'être le dernier à entendre parler de Fab Carreau, bédéiste donc. Et après, j'ai tout lu, c'est génial, et romancier, puisqu'il publie son 3e roman chez Gallimard, collection Signes, ça s'appelle Broadway. Bonjour Fabrice Carreau.
Bonjour.
Alors, c'est Fab Carreau ou Fabrice Carreau? Quand vous êtes romancier, c'est Fabrice?
Ouais, alors c'est un petit peu schizophrène, dit comme ça, mais la BD c'est plutôt Fab Carreau, et le roman c'est plutôt Fabrice Carreau. Et je tiens à cloisonner un petit peu le truc, mais c'est plus pour le lecteur, enfin c'est pour le lecteur plus que pour moi en fait. Parce que Fab Carreau, la BD, c'est des choses qui sont plus ouvertement drôles, on va dire. Enfin, le cahier des charges, en tout cas, c'est de faire des choses d'humour. Et le roman, c'est peut-être un petit peu plus nuancé. Je me laisse aller à un petit côté sentimental. C'est une autre forme d'écriture, c'est une autre approche. C'est une façon de dire au lecteur, n'allez pas chercher le dernier Fab Carreau dans le Fabrice Carreau. Dit comme ça fait vraiment schizo, mais c'est vraiment, je tiens à cloisonner pour pas que... Ouais, c'est plus pour le lecteur. C'est déjà pour annoncer que c'est pas tout à fait la même écriture, en fait.
Je précise que nous n'avons aucun lien. Moi, c'est Carreau, E-A-U. Mais vous aussi, cela dit, vos copains vous sautaient dessus en classe quand le prof demandait à ce qu'on se tienne à Carreau.
Ah,
vraiment
oui.
Très drôle.
Ouais, oui, moi j'ai eu droit, quand on était devant le tableau... Il y avait des blagues genre « Pousse-toi, ta mère n'est pas vitrier. Ah, oui. »« Oui, mais tu t'appelles Carreau, on voit à travers. » Bon, voilà, j'ai droit à ce genre de choses.
Très, très drôle. Ouais. Alors, venons-en au fait. Broadway, c'est l'histoire d'Axel. Il a 2 enfants, 14-18, comme la guerre, c'est l'orage. C'est lui qui raconte, un jour, il reçoit une lettre, mais une lettre très particulière et à la fois très banale.
Oui, oui, oui. C'est la convocation au test de dépistage du cancer colorectal. Alors moi, j'ai appris l'existence de ce truc il n'y a pas très très longtemps, en fait. C'est une lettre qu'on reçoit automatiquement quand on a 50 ans, l'année de ses 50 ans.
Et moi, je l'ai appris dans votre roman, mais c'est vrai, à 50 ans,
ouais, tout le monde reçoit cette lettre. Je ne savais pas ça, je trouvais ça assez surréaliste, que l'année, comme une espèce de cadeau d'anniversaire, comme ça, hop, on reçoit au courrier, on a cette fameuse enveloppe bleue. Et j'ai trouvé ça assez... assez surréaliste. Le point de départ, c'est un ami qui l'a reçu, donc qui avait 50 ans, et qui m'a envoyé un texto avec la photo de l'enveloppe. Et sous la photo, il m'a écrit « Ben voilà, on y est ». Donc je trouvais ça assez drôle. Ça a été un petit peu le point de départ.
Sauf qu'il n'a pas 50 ans encore, voilà. Axel.
Ouais, alors Axel, comme par hasard, il a mon âge. Enfin, à l'époque où j'écris le roman, l'an dernier, il a 46 ans. Et c'est, voilà, c'était le point de départ, c'était le fil rouge en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément réussi sa vie, mais qui se l'était jamais comme ça formulé, enfin, qui ne s'était jamais trop posé de questions. Et cette enveloppe va servir de déclencheur, un petit peu de catalyseur à ses questionnements. Ils vont se dire, mais ouais, en fait, j'ai pas 50, mais j'ai presque 50. Et est-ce que j'ai bien réussi ce que je voulais réussir? Est-ce que je suis resté fidèle à mes rêves? Est-ce que...
Ça déclenche une sorte de crise existentielle, parce qu'effectivement, il approche de la cinquantaine. Et c'est assez fou, d'ailleurs, ces crises décennales, trentaine, quarantaine, cinquantaine, etc. Ça fait de la matière à roman, mais pourquoi? C'est parce que c'est des chiffres ronds, selon vous?
Ouais, je pense que ça doit jouer. Inconsciemment, ça va être une espèce de truc mathématique, comme ça. On doit raisonner par dizaines. Et dès lors qu'on change de dizaine, je crois qu'on est un petit peu effrayé. Alors moi, je ne sais pas si je l'ai vraiment vécu. Peut-être que je la vivrai à 50 ans, mais 30 ans, ça me l'a fait un petit peu. Mais ouais, je pense que c'est un truc assez naturel. Dès lors qu'on change de dizaine, c'est un truc qui fait un petit peu peur.
Y a de vous dans Axel? Parce qu'en fait, pendant toute la première partie du roman, je me suis dit, c'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Puis après, je me suis dit, non, en fait, peut-être ça n'a rien à voir du tout.
Ah,
vous vivez bien l'approche des 50 ans?
Oui, moi, ça va. Y a un petit peu de moi partout. Il y a un petit peu de moi dans tous mes livres. Il y en avait beaucoup dans le personnage du discours. Il y en a aussi pas mal de moi dans Axel, dans Broadway. Pas tout, heureusement, mais j'ai pris pas mal de choses de ma vie. Et même les choses les plus surréalistes, des fois la réalité dépasse la fiction. Et non, il me ressemble étrangement. Enfin, je pousse toujours le curseur un petit peu de l'absurde, heureusement.
J'espère. Donc on suit le quotidien d'Axel, qui est un quotidien très normal, trop normal peut-être. Comme quand il était invité à dîner chez un couple d'amis, comme tout le monde, et que, comme tout le monde, la conversation dérive vers une éventuelle semaine de vacances ensemble. Et là, Denis voudrait que nous allions faire du paddle à Biarritz. Du paddle à Biarritz. Si je devais établir une liste de mes vacances idéales, le paddle à Biarritz avec un couple d'amis n'apparaîtrait pas sur la feuille. Ni au dos, ni dans le cahier tout entier. Le soir où il avait lancé cette idée, tout le monde était emballé. C'était l'idée du siècle, du paddle à Biarritz. Youhou, champagne! Moi-même, j'arborais un sourire franc pour ne pas détonner dans l'effervescence ambiante, un sourire de photo de mariage, sans même savoir ce que signifiait le mot paddle, quoique pressentant qu'il avait de bonnes raisons de ne pas faire partie de mon vocabulaire. C'est vrai que c'est assez terrifiant, Fabrice Caro, le paddle. C'est arrivé comme ça, comme le spritz. Avant, on se mettait debout sur une planche à voile, sans voile. Maintenant, on fait du paddle. Ça le fascine, ça.
Ouais, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Cela dit, j'ai jamais trop compris le sport en général. Je suis pas très sportif. Mais là, ce truc-là me fascinait quand je voyais ça. Mais moi, en fait, j'écris, j'improvise, en fait. J'écris, je me lance, j'improvise. Et ce truc-là, moi-même, je l'ai pas vu venir. Cette proposition de l'ami, mais c'est sorti comme ça, le paddle à Biarritz, c'est une espèce de musicalité comme ça, il y a un rythme dans le paddle à Biarritz, c'est sorti comme ça. Puis, après l'avoir écrit, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai parlé du paddle à Biarritz? Mais d'abord, je crois que c'est la forme qui a précédé le fond. Je l'ai écrit parce que ça sonnait comme ça, et après je me suis dit, bah ouais, tiens, c'est peut-être les vacances dont je rêverais le moins au monde, finalement. Enfin, Biarritz, j'ai rien contre eux, c'est très joli, Biarritz. Le paddle, un petit peu moins. Mais...
Qu'est-ce qui l'angoisse avec ce paddle à Biarritz? C'est les amis qui vont avec, parce qu'il y a le bel ami aussi, ça c'est très intéressant.
Ouais, il y a ce fameux bel ami, bah, l'ami qu'on choisit pas, c'est-à-dire le compagnon de... Alors là, en l'occurrence, c'est le compagnon de l'ami de sa compagne à lui. Voilà, on est entouré dans la vie de gens qu'on choisit pas. Et des liens se créent comme ça, plus de manière plus ou moins artificielle. Il faut faire avec. Moi, c'est un truc qui me fascine. Comment on vit avec l'autre, avec des gens qu'on n'a pas choisis, que ce soit la famille, les amis plus ou moins proches. Et c'est un lien qui me fascine. Comment on fait avec ça? Comment on se débrouille pour vivre? Et alors, le pire, c'est quand une intimité comme ça se crée, une intimité qu'on n'a pas choisie. Je trouvais ça assez cauchemardesque. Quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'affinité, qui nous propose des vacances ensemble. Ouais. Pour moi, c'est une espèce de vision de l'enfer. Ouais.
Et qui a l'air de dire, ça va être bien pour nous, pour notre amitié,
ouais,
pour la
ça.
Construire. Là, on va passer, je crois, dans le livre, vous dites, on va passer ceinture marron
d'amitié.
Parce que les vacances, c'est important.
Ouais, c'est ça. C'est important pour lui de passer des vacances ensemble, alors que le personnage, ça le terrifie plus qu'autre chose. Ce moment d'intimité où on se retrouve à deux couples comme ça, il y a une espèce de promiscuité qui est assez effrayante, ouais, si on n'est pas intime.
Et alors, c'est... C'est très bien fait parce qu'il y a le bel ami, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi le voisin qui est gentil mais un peu lourd et avec qui il prend l'apéro une fois tous les trois mois parce que c'est comme ça, parce que la vie s'est construite comme ça et puis c'est tout. Et tous les trois mois, il est obligé d'y aller, il lui propose des whisky. Alors lui, il n'aime pas le whisky, mais une fois, il a dit oui, donc maintenant, il lui propose des whisky dans tous les sens. Bon, bref, mais je veux dire, il est assez misanthrope si on regarde les choses comme ça. Et à la fois, c'est autre chose. C'est pas qu'il n'aime pas les gens. C'est très subtil, en fait, cette position.
Ouais, alors je sais pas s'il est misanthrope. J'espère qu'il est pas trop misanthrope, qu'il est pas trop cynique.
C'est non, justement, non.
C'est juste une manière de... Ben on sait pas vivre avec l'autre quand on est soi-même pas très très équilibré, quand on n'a pas choisi forcément une voie qui nous correspond. On se retrouve à côtoyer des gens avec qui on sait pas faire. Et on essaie de créer du lien de manière plus ou moins maladroite. Et on sait pas toujours faire. Je trouve que c'est pas évident. Mais j'espère qu'il y a une espèce de tendresse, que c'est pas du cynisme.
Exactement ça. Gardez l'équilibre, Fabrice Caro. On remonte sur le paddle dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Caro.
La voix est libre, suite avec Fabrice Caro, alias Fab Caro, quand il publie des bandes dessinées. Son roman Broadway raconte l'histoire d'Axel, qui s'ennuie dans sa vie normale. Ira-t-il jusqu'à tout quitter pour jouer dans une comédie musicale? Peut-être. Pourquoi nous évertuons-nous à n'effectuer que des actes pourvus de sens? C'est pas moi qui pose la question, c'est Axel qui la pose dans le roman. Et je vous la pose à mon tour, Fabrice Caro. Pourquoi nous évertuons-nous à n'effectuer que des actes pourvus de sens?
Oh là là, c'est une question philosophique. J'ai posé la question, j'ai pas la réponse. Mais c'est une question que je me pose. C'est vrai qu'on est toujours dans l'utile. Dans la vie de tous les jours, on est dans l'utile, on n'est pas tellement dans la fantaisie. Moi, je trouve que globalement, les gens manquent de fantaisie. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fantaisie dans nos vies. On ne fait pas assez de choses qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'utilité. C'est toujours dans un but fonctionnel, utilitaire. Je trouve qu'on dérape pas assez. Enfin, on dérape pas assez. Il ne faut pas trop déraper non plus, mais il faut s'amuser. Je trouve qu'on ne s'amuse pas assez. On ne fait pas de choses assez inutiles, je trouve, dans la vie.
Mais parce qu'il se pose cette question, parce que justement, il est invité chez les fameux amis, là, et puis il regarde la femme du couple d'en face, et ils ont un débat avec sa femme à lui. Ils ne savent pas si elle s'est fait refaire ou non les seins. Et il se dit, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, là, je tendais le bras juste pour toucher, voir si c'est refait ou non. Et là, il se demande pourquoi il ne le ferait pas après tout. Mais là, bon, on a un peu la réponse.
Oui, bah, là, l'exemple...
On peut se méprendre sur ses intentions, voilà.
Là, l'exemple est un petit peu extrême, mais c'est rigolo de se poser la question. Si on faisait des gestes un petit peu inappropriés, qu'est-ce que ça enclencherait? Ça pourrait... Ouais, on pourrait prendre notre chemin, la vie pourrait aller ailleurs que là où il était prévu qu'elle aille. Bon, alors là, l'exemple est un petit peu, peut-être un petit peu trivial, un petit peu extrême. Mais des fois, je me dis, tiens, si je faisais ce geste-là, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait pas si grave et puis ça pourrait donner lieu à quelque chose d'assez inattendu.
Ça vous arrive de faire ça? Ou alors c'est
de toucher
d'écrire des BD
les seins
et des romans qui est déjà un geste fantaisiste?
J'essaie, moi, en tout cas, de faire des choses qui n'ont pas trop de sens. Alors, dans mon travail, déjà, moi, j'adore le non-sens, j'adore me perdre dans le non-sens. Et après, dans la vie, j'essaie des fois de me perdre. Alors, au sens large, moi, je suis toujours perdu. J'ai aucun sens de l'orientation. Là, à Paris, j'arrête pas de me perdre, je suis toujours perdu. Mais j'aime bien cette idée aussi d'être perdu, de perdre un petit peu ses repères. Et j'aime bien perdre les repères au sens propre et au sens figuré aussi, de se dire, ça, je ne maîtrise pas trop, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'aime bien cette sensation de voir où ça va.
Je suis un journaliste, je donne des infos parce que effectivement vous habitez du côté de Montpellier. Voilà. Le thème est un classique de la littérature contemporaine, la vie normale contre la vie d'aventure finalement, mais vous notez quelque chose de très pertinent. Il y a beaucoup de monde à qui l'ordinaire finalement convient très bien. Et là, je vais citer un passage où Axel observe un de ses collègues. J'ai beaucoup de mal à imaginer des rêves d'enfant qu'il n'aurait pas réalisés et dont il garderait une frustration secrète. Peut-être est-il devenu ce qu'il rêvait de devenir. Plus tard, je veux travailler dans une boîte austère, vivre seul et parler d'éléphants avec des filles devant des machines à café. Il y a des gens comme ça qui semblent n'être passés à côté de rien. Soit que leur objectif était très accessible, soit qu'ils n'en avaient pas. Et c'est peut-être la meilleure philosophie de vie à adopter. N'espère rien et tu seras exaucé, tu n'auras rien. C'est ça une vraie philosophie de vie? Vaut mieux ne... abaisser ses objectifs?
Oui, je crois que c'est ça. Je cite Céline qui dit il visait juste, mais ouais, il faut pas. Si, moi je pense qu'il faut avoir de grandes ambitions et des grandes envies. Je me pose toujours la question de savoir si les gens très heureux et très équilibrés le sont vraiment, en fait. C'est une espèce de pathologie que j'ai quand je suis dans la rue ou même à la gare. Ça me fait souvent à la gare. Je regarde les gens, je passe ma vie à regarder les gens et à imaginer un petit peu leur vie. Une espèce de maladie comme ça. Et c'est toujours une question que je me pose. Est-ce que les gens qui ont l'air très bien, très équilibrés, bien dans leur vie, est-ce qu'ils le sont vraiment ou est-ce qu'ils se mentent pas eux-mêmes? Est-ce que c'est pas une façade pour essayer de... Parce qu'il faut bien vivre, quoi, il faut bien survivre. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont pas des rêves perdus, des rêves qu'ils ont laissés de côté, comme ça?
Ils essayent de faire avec, finalement.
Ouais,
parce que Axel n'arrive pas tellement à faire, quoi.
Ouais, on fait ce qu'on peut, en fait. C'est pas évident de... C'est rare, moi je m'aperçois que j'ai une chance inouïe. Je rêvais, quand j'étais petit, je rêvais d'écrire des livres. C'était ma passion, je rêvais de faire ça. Et miraculeusement, à mon âge, je fais ça. Mais c'est miraculeux, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et je me dis, la plupart des gens ne vivent pas leur rêve de... Donc après, il faut essayer de faire avec ça, on fait ce qu'on peut.
Mais ça, il a fallu... du courage et une forme de renoncement et tout ça pour y arriver. Je veux dire, au début, j'imagine qu'on vend pas tout de suite des BD pour pouvoir en vivre.
Courage, je sais pas. Moi, j'emploierais pas ce mot. Je crois que le courage, ça aurait été d'essayer d'avoir une vie normale. À une époque, je fais des études de sciences. J'ai fait une année d'UFM pour être prof. Et je crois que le vrai courage, ça aurait été de faire prof, pour le coup. Mais là, de faire quelque chose qui est vraiment sa passion, d'essayer de tout lâcher pour essayer de faire sa passion... Bon, je crois que c'est l'inverse du courage. Enfin, moi, en l'occurrence, c'était presque de la lâcheté, parce que je savais faire que ça, quoi. Enfin, à part écrire un petit peu et dessiner un petit peu, je sais pas faire grand chose dans la vie. Je suis pas très doué, moi, pour la vie en général. Donc, c'était pas du courage, c'était plus un pis-aller. Je savais faire que ça, donc je me suis lancé.
Alors, on sait pas si Axel va finir par tout quitter et partir à l'aventure, mais en attendant, on observe la vie ordinaire, et c'est ça ce roman, tout y passe, le voisin fan de whisky, on l'a dit, les barbecues, mais aussi les chagrins d'amour. La fille d'Axel est désespérée parce que son amoureux n'est plus amoureux. Alors Axel essaye de la consoler, mais arrive à la conclusion que finalement c'est inutile, Il n'y a pas de bons mots dans ces occasions. Je cite, dire à quelqu'un qu'il en trouvera un autre est probablement la dernière chose qu'il a envie d'entendre. Et c'est vrai que ça part d'un bon sentiment, mais on prend plus le temps aujourd'hui, on ne laisse pas le temps aux autres de souffrir. Il faut consoler immédiatement.
Oui. Alors, ouais.
On n'a pas trop le droit d'être malheureux aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Bah, on est dans une espèce d'ère du... Bah, c'est très à la mode, le développement de soi. Il faut être bien. Moi, je trouve que non, il faut... On peut se laisser aller à de la mélancolie aussi. Enfin, il ne faut pas que ça tourne à de la grosse dépression non plus. Mais c'est bien aussi d'avoir ce sentiment-là de... Il faut éprouver ça aussi, de la mélancolie, de la tristesse. Il ne faut pas être bien à tout prix. Sinon, on sombre dans une espèce de dictature du bien-être. Et dès qu'on n'est pas bien, on se dit oh, « Non, ça va pas là, je ne suis pas bien. Bon, » on a le droit de ne pas être bien. Moi, j'aime bien cette idée aussi de sombrer un petit peu. Enfin, sombrer un petit peu, n'exagérons rien, mais de... Ouais, on a le droit de se laisser aller un petit peu à une mélancolie comme ça.
D'explorer les sensations finalement différentes.
Ouais. Alors, ce n'est pas toujours très agréable, mais ça enrichit aussi. Ça apporte quelque chose.
Pourquoi est-ce que vous changez de support? Qu'est-ce qu'on dit dans un roman qu'on ne peut pas dire dans une BD et inversement? Parce qu'il y a aussi des vignettes dans le roman parfois.
Oui. Alors déjà, moi j'adore écrire et c'est peut-être une frustration que j'ai quand je fais de la BD. C'est peut-être pas assez... Alors j'adore l'image aussi, j'adore les outils que procure la BD, c'est-à-dire les suspensions comme ça, les non-dits, les ellipses. Mais en même temps, je suis frustré d'écriture et de texte. Donc des fois, il me faut... Surtout que moi, mes romans, c'est souvent très introspectif. Et je pars comme ça, c'est en flow et je lâche tout. Et j'ai besoin de ça. C'est pas la même approche. Et c'est un truc que je retrouve pas en BD, où il faut être assez concis, assez dans l'ellipse. J'adore ça aussi, j'adore l'efficacité, j'adore le format court. Mais de temps en temps, j'ai besoin de écrire, vraiment écrire.
Et vous faites les deux en même temps? Ou il y a des plages qui sont réservées au roman et d'autres pour la BD? C'est-à-dire vous ne commencez pas un roman si vous n'avez pas fini la BD?
Non, j'ai toujours 3000 projets en parallèle. Ce n'est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs, parce que j'ai peut-être des fois tendance à me perdre un petit peu. Mais pas forcément, je crois que souvent l'un nourrit l'autre. C'est pas mal d'être sur plusieurs trucs à la fois. Mais j'ai toujours plusieurs projets en parallèle.
Et c'est le même bureau ou ce ne sont pas du tout les mêmes rituels pour s'installer, travailler, etc.
Si, c'est le même, c'est toujours ma petite table de chez moi. Non, je change pas le cadre. Par contre, l'outil est pas le même. Sur le roman, je le fais sur l'ordi. Puis les BD, moi, je travaille un petit peu à l'ancienne. Je travaille avec des feuilles, des stylos, donc comme un vieux que je suis. Non, le support est pas le même, mais le cadre est toujours un petit peu le même. Après, les conditions, c'est peut-être plus léger quand je dessine et quand je fais de la BD. J'ai de la musique en fond. Le roman, il y a quand même une espèce de bulle où il faut que je me plonge dans un état particulier pour lancer ce truc-là de flow.
Aux mêmes horaires?
À peu près, moi je suis resté assez scolaire en fait. J'avais pris un rythme avec mes filles. Je les amenais à l'école, puis je travaillais, puis j'allais les chercher à l'école. Et j'ai gardé ce rythme-là. Du coup, j'ai un rythme assez scolaire. J'ai l'impression d'être toujours à l'école à 47 ans. J'ai des horaires très...
Horaires de bureau finalement.
Ouais, c'est ça. Moi qui voulais une vie très délurée comme ça. Finalement, j'ai des horaires de bureau. C'est ça.
Broadway, c'est le titre du nouveau roman de Fabrice Caro. Vous restez avec nous si vous voulez bien. Dans un instant, on lit un roman culte. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Fab Caro qui publie Broadway chez Gallimard. Il est l'heure d'évoquer notre roman culte de la semaine et aujourd'hui j'ai choisi Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. C'est le roman le plus connu de Fitzgerald, publié en 1925. L'histoire nous est racontée par Nick Carraway, un jeune homme d'à peine 30 ans. Il compte tenter sa chance dans la finance à New York. Il s'installe dans une toute petite maison sur Long Island au milieu des grandes villas de milliardaires. Son voisin fait partie de cette haute société, organise des soirées fastueuses, inondées de champagne pleine de paillettes et d'outrances. Il s'appelle Jay Gatsby. Il est richissime. On ne sait pas vraiment d'où il vient, comment il a fait fortune. Ce qu'on sait, c'est qu'il est amoureux. Amoureux de la cousine de Nick, Daisy. Elle est mariée à Tom Buchanan, très riche aussi, mais beaucoup moins classe que Gatsby, bourru, un peu raciste sur les bords. Le couple n'habite pas très loin et Gatsby va se servir de Nick pour approcher Daisy. Une histoire servie par le style incroyable de Fitzgerald. C'est Nick qui raconte, chef-d'œuvre absolu, mais fiasco pour son éditeur. En 1925, Fitzgerald est pourtant déjà connu, mais le livre ne dépasse pas les 30 000 exemplaires, beaucoup moins que ce qu'il attendait. Il faudra attendre les années 50-60 pour que le livre connaisse le succès. Jusqu'à aujourd'hui, Gatsby reste un mythe. Le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio est la 4e adaptation du livre. Un roman qui finit mal, c'est presque une tragédie, mais qui dresse un formidable réquisitoire contre la vulgarité de l'argent. Un tableau des années 20 80, des années folles qui ressemblent parfois furieusement à notre époque, on écoute la première page lue par le comédien Philippe Dussault.
Quand j'étais plus jeune et plus vulnérable, mon père un jour m'a donné un conseil que je n'ai pas cessé de retourner dans ma tête. « Chaque fois que tu seras tenté de critiquer quelqu'un, m'a-t-il dit, songe d'abord que tout le monde n'a pas eu en ce bas monde les mêmes avantages que toi. » Il n'en a pas dit plus. Mais comme nous avions une capacité peu ordinaire à communiquer dans la plus extrême réserve, j'ai compris qu'il exprimait beaucoup plus qu'il n'y paraissait. De là mon inclination à ne pas me hâter de juger, habitude qui a fait de moi le confident de bien des personnalités surprenantes, et aussi la victime de plus d'un inguérissable raseur. Un esprit déréglé est prompt à déceler ce trait de caractère chez l'individu normal, et à s'y attacher. C'est ainsi qu'à l'université, j'ai été injustement accusé de jouer les éminences grises, parce que de jeunes sphinx farouches m'avaient confié leur peine secrète. La plupart de ces confidences n'avaient pas été sollicitées. Souvent, je faisais semblant de dormir ou d'être absorbé, ou je feignais la légèreté hostile dès que je percevais, à quelques signes indiscutables, qu'un aveu intime se profilait à l'horizon. Car les confessions des jeunes gens, ou du moins les termes dans lesquels ils les formulent, révèlent habituellement du plagiat et sont gâtées par d'évidentes censures.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'était la première page de Gatsby le Magnifique, lu par le magnifique comédien Philippe Dussault. Nous sommes toujours avec Fabrice Carreau qui publie Broadway chez Gallimard. C'est un roman culte pour beaucoup de gens, Gatsby le Magnifique. Fabrice Carreau, vous, c'est quoi votre roman culte?
Alors moi j'ai pensé, quand vous m'avez posé la question, j'ai pensé à Septentrion de Calafert. Alors, je cite celui-là et c'est
vous
marrant.
Vous nous racontez, ça date des années 60 et c'est un peu ardoise comme
ouais, roman. Ouais. Alors, c'est marrant parce que je ne pourrais pas vous en dire grand-chose parce que je ne l'ai pas relu. C'est un livre qui m'a mis une claque quand j'étais à la fac. J'avais 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas relu depuis, donc je ne pourrais pas vous en parler précisément. C'est un roman assez autobiographique. C'est Louis Calafert qui... C'est une errance un petit peu. C'est à l'époque où il écrivait, mais il était un petit peu dans la dèche. Ça parle de son boulot d'écrivain. Ça parle beaucoup de sexe, de spiritualité, de création. Et moi, quand j'ai découvert ça, donc j'étais en fac de sciences, mais je n'allais pas beaucoup en cours parce que ça ne me passionnait pas beaucoup. Donc je passais mon temps à lire, à écrire et à traîner un petit peu. Et je lisais pas mal de romans comme ça, d'auteurs, qui mettaient beaucoup en perspective le boulot d'écrivain, qui, moi, me faisait fantasmer.
Vous le feriez lire à vos enfants?
Ah non. Alors, il faudrait que je le relise, mais dans mon souvenir, c'était assez cru, c'était ouais. Assez violent, même au niveau... Ça parlait beaucoup de sexualité, je crois qu'il était entretenu par une Hollandaise, je crois, et c'est très sexuel. Je crois que si je le relisais maintenant, ça ne me plairait pas autant, parce que je suis moins romantique. C'est très romantique, cette histoire, que je suis moins romantique qu'à 20 ans. Donc peut-être ça me plairait moins, mais à l'époque, ça m'avait porté, ce livre.
Septentrion de Louis Calafert, publié en 1963. Restez avec nous, encore des livres dans un instant. Nous partons visiter la bibliothèque d'Yves Candebord, le chef de cuisine. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio. Le chef Yves Candebord est un habitué d'Europe 1, vous le savez, il a son rond de serviette dans l'émission de Laurent Mariotte. Je le croise parfois dans les couloirs et je sais que c'est un passionné de littérature. Alors je lui ai demandé un jour s'il avait une bibliothèque à me faire visiter. Eh bien oui, et c'est un régal, évidemment. Bonjour Yves.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. En fait... Pour expliquer aux auditeurs, je suis passé il y a quelques semaines vous voir, et puis dans le hall de l'hôtel du Relais Saint-Germain, au carrefour de l'Odéon en plein Paris, là où vous avez votre restaurant aussi, et vous m'avez dit, je me suis dit, tiens, mais Yves Candebord, c'est quand même l'ami des poètes et des écrivains, il y a plein d'écrivains qui passent dans votre restaurant, vous me faites penser un peu à Rapneau dans Cyrano, le pâtissier, là, qui est un peu le mécène des poètes, qui leur donne quelques pâtisseries en échange d'un poème, il y a un peu de ça, et je m'étais dit, tiens, Yves Candebord, je suis sûr qu'il a des bouquins de fou, et effectivement, dans le hall du Relais Saint-Germain, il y a deux bibliothèques, protégées en plus par des vitrines, avec des bouquins magnifiques, on va s'y plonger tout de suite.
Oui, c'est une passion que j'ai, c'est la passion de mon métier de cuisinier, Et quand j'ai commencé ce métier-là, voilà, je me suis énormément intéressé à ce qui se passait dans ce métier, et surtout ce qui s'était passé. Donc dès que j'ai pu acheter des livres pour comprendre un peu la gastronomie française, pourquoi il y avait cet engouement dans le monde entier par rapport à la gastronomie, ben je me suis, je dirais, de temps en temps saigné pour arriver à avoir ces livres qui sont un peu mes compagnons de route depuis 40 ans.
Mais alors là, donc, c'est la collection des bouquins plutôt sur la gastronomie. Il y a des choses merveilleuses. C'est plutôt des livres anciens. Vous les chinez ou comment ça se passe? Vous les avez collectionnés depuis toujours?
Alors, je les collectionne depuis toujours. Depuis toujours, je les chine énormément. Bon, il y a beaucoup de ventes aux enchères à la salle Drouot. Donc, quand on a la chance de pouvoir y aller, j'y vais parce qu'il y a toujours des petits trésors. Et après aussi, il y a des qui sont beaucoup plus contemporains. Bon, la collection du bas, c'est la fameuse collection de ma génération. C'est la collection qui a été faite par Robert Laffont, où il y a tous les grands cuisiniers des années 80. C'est les fameux gars qui ont construit la nouvelle cuisine, qui ont révolutionné un peu cette gastronomie française qui était un peu roborative et un peu lourde. Ça part de Michel Guérard, en passant par Jacques Maximin, Marc Menot, Joël Robuchon, tout le monde est là. Alain Chapelle, qui pour moi est encore une de mes références philosophiques, autant dans la façon de cuisiner que de penser.
Et le livre d'Alain Chapelle, ça s'appelle « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ».
Je pense que dans le titre, il y a tout, quoi. Dans le titre, il y a tout. Et c'est un livre que je fais lire, là, l'édito, je le fais lire pratiquement à tous mes apprentis, parce que tous les avant-propos, il y a 40 pages d'avant-propos. Une fois qu'on les a lus, parce qu'on a tout compris sur ce qu'est notre métier de cuisinier.
C'est quoi la grande référence ici
Moi, je vais être simple. Je pense que le grand maître de tout cela, c'est Auguste Escoffier, parce que pour nous, les
cuisiniers... Le guide culinaire,
c'était le guide qu'on conseille à tous les apprentis de s'acheter, parce que c'est le guide qui est référentiel. Auguste Escoffier, c'est le cuisinier des années 1900 qui a un peu révolutionné par deux façons le monde de la gastronomie. C'est lui qui a restructuré aussi le travail de brigade avec beaucoup plus d'humanisme, on va le dire comme ça, et beaucoup plus d'organisation pour simplifier un peu ce travail qui était un travail de grand labeur, et aussi qui a repris tous les grands classiques, ce qu'il a estimé qu'était la France gastronomique, et qui les a remis déjà pour son époque à lui, au goût du jour. Ça a été, c'est encore une référence essentielle de notre cuisine. Et il y a encore bon nombre de cuisiniers. On s'estime des disciples d'Auguste Escoffier.
C'est vrai que c'est de la poésie quand même. Quand je prends une page au hasard, là, on est dans les potages et les purées. Il y a la purée Bressane, la purée Clermont, la purée Conti, la purée Condé. Et à chaque fois, il y a une recette, mais en 5 lignes, quoi. Purée de céleri, émincer et blanchir légèrement 750 g de blanc de céleri, égoutter à fond, étuver au beurre, et mouiller d'un litre et demi de consommé blanc. C'est quand même du vocabulaire aussi. C'est une langue étrangère aussi, la cuisine.
C'est vrai que c'est une langue étrangère, c'est un vocabulaire très, très précis. C'est un langage qu'on a en nous, j'ai presque à vous dire. C'est presque notre patois. Nous. On n'a pas besoin de beaucoup parler pour comprendre, mais c'est des mots qui sont essentiels. Quand on prend le mot étuver, ça veut dire respecter. C'est-à-dire que c'est passé délicatement au beurre, surtout sans lui donner aucune coloration, sans le stresser.
Je pensais qu'il fallait le mettre dans une sorte de cocotte, comme dans une étuve, quoi.
Non, je pense
c'est l'inverse.
Le mettre dans une cocotte, c'est au contraire, c'est accéléré. Tandis que là, l'étuve, quand on étuve, on prend notre temps.
C'est quoi votre trésor là-dedans? Pas forcément le plus prestigieux, mais celui que vraiment vous tient à cœur, quoi.
C'est un petit livret de chez moi, de Simen Palay. La beauté, moi, je dis souvent aux jeunes, c'est que c'est pas des livres de photos. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir de très, très beaux livres de photos qui sont par des très grands photographes. Mais je trouve que de lire une recette, on se voit la cuisiner. On se l'approprie. On la comprend d'autant plus.
Et là, dans ce livre-là, vous avez une recette emblématique que vous avez reprise?
Oui, j'en ai plusieurs. Alors, je vais en prendre une.
Réarranger éventuellement?
Non, mais je vais vous en prendre une. Les merveilles.
Oula, c'est quoi?
Ma grand-mère me les faisait. Les merveilles, c'est un biscuit qu'on fait chez nous en Béarn quand on revient à 4 heures. On met sur une table une poignée de farine, un peu de sel, une tasse à café de lait, du beurre gros comme un œuf. On pétrit, on bat bien cette pâte, on l'étend avec le rouleau en bois. Le rouleau en bois s'appelait une riboule. Et on le plie en quatre. On recommence jusqu'à 5 à 6 fois et en repliant toujours. on l'étend encore bien et on le coupe des morceaux en losange ou en rond avec un verre que l'on frit à la graisse. On saupoudre ces pâtisseries de sucre avant de les servir.
Ouais, on a déjà faim, quoi.
Mais c'est des merveilles qu'on retrouve encore. Alors, selon la région, on peut appeler, alors ils vont l'appeler dans le sud-est plus de la bugne, mais c'est avec une pâte à brioche. Là, quand on l'analyse bien sur la lecture, on comprend qu'on est entre une pâte brisée, sablée et aussi feuilletée parce qu'il y a le fameux repliage qui va donner le volume. Et après, c'est de chez nous, c'est la friture à la graisse qui a un goût tellement particulier. Alors, je ne dirais pas que j'en mangerai tous les jours, mais retrouver ce goût de temps en temps, moi, ça me fait rire et ça fait rire mes clients.
Merci beaucoup, Yves.
Merci à vous.
On vous laisse avec vos livres et vos fourneaux, alors. Ouais. Merci beaucoup. Mélangez pas trop les deux.
Merci beaucoup.
De retour en studio, toujours avec Fab Caro, qui publie Broadway chez Gallimard. Fab Caro, c'est quoi votre bibliothèque à vous? Est-ce que vous en avez une d'abord? Est-ce qu'elle est bien classée? Est-ce que c'est dérangé? Racontez-moi un peu.
Oh là là, il y a de tout partout. J'ai plusieurs bibliothèques, j'ai des livres partout. Mais j'achète beaucoup plus que ce que je ne lis. Du coup, j'accumule. Alors, la bibliothèque est pleine à craquer. Alors, je range pas. Alors, j'essaie de mettre les romans que je préfère plus accessibles devant, mes vieux classiques un petit peu derrière. Mais j'accumule des piles de livres un petit peu partout, sur le canapé, à côté du lit. Quand je vais de pièce en pièce, il faut toujours que j'ai... Ça fait un petit peu psychopathe dit comme ça, mais je me déplace avec des livres sous le bras parce que j'ai peur de manquer de livres. Quand je vais au lit le soir, je prends toujours 3-4 livres en me disant je vais lire celui-là, mais j'aurais peut-être envie de lire celui-là. Du coup, ça fait un petit peu vieux rat de bibliothèque qui se balade dans la maison comme ça avec des livres. Mais il y en a un petit peu partout, c'est un petit peu problématique.
Et il y a un mur de BD ou pas ?
Il y a pas mal de BD aussi. Alors, je suis beaucoup plus... Ça la fout mal pour un auteur de BD, mais je suis beaucoup plus lecteur de romans que de BD. Je lis très peu de BD finalement. Il y a plus de romans que de BD quand même. Ouais.
On apprend des choses. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, toujours avec Fab Caro qui publie Broadway chez Gallimard. C'est l'heure des libraires, direction la 25e heure, la librairie de Christophe Daniel.
Et nous sommes donc de retour à la 25e heure à Paris. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Alors, on fait un petit tour d'abord. Vous nous présentez quelques livres avant de nous donner votre gros coup de cœur du jour.
D'accord, avec plaisir. Alors ben là, je vois en face de moi un livre que j'ai énormément aimé aussi. C'est le nouveau roman de Colombe Bonsen, Vue mère, aux éditions Zoé. On est entre la comédie et puis quelque chose quand même de plus noir, de plus sombre, autour d'une entreprise, un chef d'entreprise qui entre dans sa voiture pour aller à son travail et à une réunion importante. Et là, la panne, il ne peut pas y aller. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est drôle, il y a une chute superbe. Voilà, Colombe Bonsen, Vue mère, un de mes coups de cœur.
Colombe Bonsen, beaucoup de talent. Oui. Un autre ?
Alors un autre, un premier roman aux éditions Julliard, Béni soit Sixtine, de Maëlys Adémar. Alors là, on est dans l'univers des catholiques intégristes. C'est glaçant, ça se lit comme un thriller. C'est l'histoire d'une emprise, puis d'une libération. Et franchement, c'est un des premiers romans terribles de cette rentrée littéraire.
Allez, je vous octroie un petit troisième avant de passer au gros coup de cœur.
Allez, un petit troisième. Alors, ça va être Le Sanctuaire de Laurine Roux aux éditions du Sonneur. Là, on est dans une histoire qui pourrait ressembler un petit peu à La Route de McCarthy. Là aussi, une écriture magnifique. Le roman pourrait être très noir, mais il y a deux sœurs qui sont les héroïnes du roman qui apportent une lumière à cet univers quand même assez sombre.
On avance un petit peu, il est où votre coup de cœur génialissime du moment ?
Alors mon coup de cœur, je l'ai entre les mains, c'est le sixième livre de Dominique Fortier, Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson. Et ça va arriver chez Grasset. Dominique Fortier, elle est québécoise. Et là, elle va nous raconter la vie d'Emily Dickinson. Alors, Emily Dickinson, c'est une grande poétesse américaine du 19e siècle. Et en fait, toute son œuvre est une œuvre posthume parce qu'elle a toujours refusé de publier ses poèmes. Et elle est aussi très connue pour avoir passé sa vie quasiment cloîtrée chez elle. Elle est... Elle est née dans la même maison où elle est décédée et au fil de sa vie, elle a limité ses sorties d'abord au village, puis au jardin et puis finalement les dernières années dans sa chambre. C'est pas une biographie du tout, c'est une évocation de moments de la vie d'Emily Dickinson. Et ce choix d'être cloîtrée, qui pourrait être une privation de liberté pour elle, c'est au contraire une liberté différente et une autre façon d'appréhender le monde qu'elle a réussi à faire avec ses poèmes. Et le texte de Dominique Fortier est vraiment magnifique. Il y a une espèce de grâce, de beauté dans son écriture. Et elle alterne des passages donc, autour de la vie d'Emily Dickinson, mais elle se met elle aussi en scène dans son installation avec toute sa famille dans une maison de Nouvelle-Angleterre, parce qu'il est également bien question de la notion de foyer. Alors en anglais c'est home, et home dit beaucoup plus de choses que le mot français foyer. Donc il y a des interrogations sur cette notion de foyer, sur la création, et puis c'est un immense hommage à la littérature.
On a une belle rentrée littéraire et ça se passe toujours aussi bien pour les libraires, là, la fréquentation ?
Ça se passe toujours bien. Il y a un vrai appétit des lecteurs et des lectrices pour cette rentrée littéraire et qui s'exerce sur des titres très différents, même si... Évidemment, il y a toujours quelques grosses ventes, mais je trouve qu'il y a un étalage de la curiosité sur tous les titres, et ça, c'est vraiment super.
C'est quoi celui qui est vraiment plébiscité là pour vous ?
Ah ben, en ce moment, c'est Yoga, Emmanuel Carrère, et puis il y a aussi Chaviré de Lola Lafont.
Merci Christophe Daniel.
Merci Nicolas.
À bientôt.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour à Europe 1 avec l'écrivain et bédéiste Fabrice Carreau. Vous aimez flâner, vous, dans les librairies, Fab Carreau ? Vous êtes comme tous les écrivains que j'invite, qui vouent un culte aux libraires ?
Ah oui, bah oui, oui, je crois. Bah on leur doit beaucoup, déjà. Puis moi, j'aime bien j'ai un rapport assez organique aux livres. Je commande pas sur Internet. Je trouve ça éthiquement pas terrible. Et en plus, moi, j'ai besoin de... Ouais, j'ai un rapport assez physique et organique aux livres. J'adore me balader dans les rayons de librairie, sans savoir ce que je vais chercher, d'ailleurs. Souvent, j'achète des livres au hasard, sur trois mots, j'ouvre au hasard, et ça fait un petit peu malade mental dans la librairie. Je touche le livre, je le sens, j'adore l'odeur
du livre. Ah, l'odeur des livres, important ça.
Ouais, ben oui, j'adore ça. Et non, les librairies, moi je pourrais y passer des heures. Alors, des fois je sors avec rien du tout, mais je me sens, c'est un petit cocon, c'est un lieu douillet pour moi. J'ai grandi au milieu des livres, et j'aime bien l'objet. J'ai toujours été fasciné par l'objet livre. Je ne sais pas si je pourrais passer... je ne sais même pas si ça a pris trop, d'ailleurs, à la tablette, à la liseuse. Je ne sais pas comment on appelle ça.
Pas trop, non, finalement. Oui.
Je crois que les gens ont ce besoin organique, ont ce rapport aussi. Mais moi, j'aurais du mal à lire sur écran. Peut-être que je suis trop vieux pour ça, mais non. Mais j'ai besoin des pages, j'ai besoin du toucher. Oui.
Et vous fréquentez une librairie en particulier ? Vous avez un libraire qui vous connaît bien ou alors vous papillonnez à droite à gauche ?
Moi, j'habite une petite ville avec un petit libraire que j'adore. J'y vais régulièrement. Sinon, parce que moi, j'habite pas à Montpellier même, je vais à Montpellier. Il y a deux, trois librairies que j'adore aussi, des librairies indépendantes. Il y a toujours de tout. Puis j'aime bien flâner dans les petits coins avec des petits livres, pas très, très... On ne sait pas trop d'où ça sort. J'aime bien piocher au hasard, ouvrir au hasard. J'adore ça.
Et les romans jeunesse, vous en lisez ? Top ! Gardez vos cartouches dans un instant. Je vous demanderai quel est votre livre de jeunesse, le premier que vous avez lu, juste après la chronique de ce grand enfant de Victor Delande et son livre de littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et bonjour Victor Delande.
Bonjour Nicolas.
Je vous présente Fab Carreau, que vous connaissez sans doute.
Bien sûr, bonjour.
Et alors vous, aujourd'hui, pour votre conseil littérature jeunesse, non mais quel faillot, vous avez choisi une bande dessinée intitulée « Quand on était petit » de Soledad Bravi.
Oui, Soledad Bravi, l'une des plus grandes illustratrices françaises, revient cette fois-ci avec un récit génial et surtout très personnel. Elle nous livre des petites histoires sur son enfance en Espagne, comment une régate avec son père et son frère a tourné au cauchemar. Son père, piètre marin, dépassé par tous les concurrents, qui finit le front ensanglanté après avoir pris un coup de baume. Ou quand Soledad ou ses frères faisaient une bêtise, leur père les envoyait faire un tour de maison en courant pour les calmer. Dans la continuité de ses souvenirs de jeunesse, Soledad Bravi raconte aussi des moments marquants avec ses propres enfants, quand sa plus grande fille se débrouillait par exemple pour faire choisir à sa plus petite sœur ce qu'elle voulait sur sa liste au Père Noël.
Et elle raconte beaucoup de bêtises, j'ai l'impression.
Oui, ça finit toujours un peu mal. Soledad Bravin nous fait mourir de rire avec son coup de crayon et les petites explications qui accompagnent ses illustrations. Tout en ironie, en finesse, elle nous confie pourquoi elle a eu l'idée d'écrire une BD aussi personnelle.
Au départ, j'ai fait un post Instagram avec une des histoires pour faire une blague à un de mes frères. Et en fait, il y a eu tellement de réactions en commentaires que je me suis dit que c'était incroyable qu'un souvenir aussi personnel puisse toucher autant de gens. Donc je me suis dit qu'il y avait une source, quelque chose. Et donc j'ai continué à poster des souvenirs, le peu de souvenirs que j'ai de mon enfance. Et à chaque fois, les gens étaient emballés parce que, je sais pas, il y avait un truc. Je ne sais pas vraiment lequel. Je suis toujours étonnée quand les gens trouvent que ma vie ressemble à la leur. On a toujours l'impression d'avoir une vie unique. Eh bien non, pas du tout.
Ou comment toucher le plus grand nombre avec l'infiniment personnel.
Question rituelle, à partir de quel âge peut-on lire ce livre ?
Alors c'est vraiment une bande dessinée hein, pour les ados, les adultes aussi apprécieront. Je dirais qu'on peut commencer à partir de 13 ans. Et puis je rajoute juste un mot sur les regrets de Soledad Bravi, qu'elle explique dans quelques histoires de ce livre. Elle n'a pas toujours accordé de temps à ses filles quand elles étaient plus petites. Manque de temps, trop de travail. Et puis on crie, on s'en veut. Ne commencez pas, ne ratez pas les meilleures années de votre vie. Voilà le conseil de Soledad Bravi.
Et on rappelle le titre. Quand on était petit, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Fabrice Caro, on disait la Soledad Bravi, elle s'inspire de son quotidien, elle parle aussi de ses enfants et tout ça. Et vous, dans vos BD, dans vos romans, on sent aussi que vous inspirez beaucoup éventuellement de votre compagne ou de vos enfants. Ça les saoule, ça les flatte, ça les ennuie, ils sont contents. Comment ça se passe ?
Ça commence à les saouler un petit peu parce qu'elles grandissent. C'est vrai que alors les BD sont ouvertement autobio. Le roman, c'est je pique beaucoup aussi d'anecdotes. Elles ont lu Broadway, elles m'ont dit, oh, c'est pas vrai, t'as pas raconté ça. Je leur ai dit, mais non, on sait pas que c'est vous. D'ailleurs, je devrais pas dire ça, je suis en train de. Bon, tant pis, trop tard.
On arrête là. Juste, vous, votre littérature jeunesse, enfin, quand vous étiez jeune, quel est le premier livre, quand vous étiez petit, je veux dire, quel est le premier livre que vous avez lu ?
Ah, tout petit, si j'essaie de remonter le plus
pas
loin possible.
Pas forcément littérature jeunesse. Hein.
Ouais, alors, moi je suis un petit peu vieux maintenant. Alors, si j'essaie de remonter avant les BD, du coup, parce que moi j'ai lu Tintin, Astérix, tout ça, mais j'essaie de remonter un petit peu avant. Je crois que c'était, à l'époque, c'était la Bibliothèque Rose. Je sais pas si ça existe encore.
Ah oui. Bien sûr.
Ouais.
Ouais.
Donc, il y avait Oui Oui, il y avait Titus, le petit lion. Un petit peu plus tard, il y avait le Club des Cinq, mais ça, c'était déjà Bibliothèque Verte. C'était déjà, on avait grandi un petit peu.
Ouais.
Mais j'ai ces souvenirs-là. Il y avait Super Chat aussi. Super Chat, un truc qui s'appelle Super Chat, je crois que c'était ça, dans Bibliothèque Rose. J'adorais aussi.
On sent que ça vous revient et que ça vous fait plaisir, là.
Ouais, ouais c'est espèce de chercher, Madeleine. Je vais aller chercher tout à l'heure en librairie.
Bon, merci beaucoup, Victor. À la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Fabrice Caro.
Merci à vous.
Merci d'être venu nous avoir accordé une heure de votre temps. Et merci pour ce livre génial, Broadway. C'est chez Gallimard, collection Signes. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresse. Et merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.